Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci de poursuivre avec nous cette soirée consacrée au football et à la Ligue des Champions aujourd'hui sur RFI et de nous rejoindre donc dans Radio Foot International, deuxième édition. Deuxième édition où nous parlerons évidemment de Ligue des Champions. Arsenal et l'Inter, demi-finalistes de la compétition, ils rejoignent dans le dernier carré le PSG et le Barça. Ce sera donc PSG-Arsenal et Barça-Inter en demi-finale à la fin du mois d'avril. Pas de miracle et encore moins de remontada à Madrid. Le Real quitte la compétition sur deux défaites face à Arsenal. Les Gunners n'ont jamais laissé aux Merengues le loisir de revenir à leur hauteur. Au contraire, impuissants les hommes de Carlo Ancelotti. Et à noter que Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Les Bavarois ont arraché le nul sans combler leur retard contre l'Inter. À Milan, les Nerazzurri ont rendu coup pour coup et n'ont pas laissé échapper leur place en demi-finale. Toujours bien organisés et impressionnants, les hommes de Simone Inzaghi. Demain soir, alors on changera un petit peu d'hymne hein, demain soir, mais nous c'est pas grave, on garde l'hymne européen puisque il est aussi valable. Demain soir, les Lyonnais à Manchester United, après un match nul à l'aller, les Gaunes espèrent se qualifier en demi-finale, mais il faudra gagner à Old Trafford, la mission ne sera pas facile. Et André Onana, le gardien des Red Devils, sera de retour dans les cages. Pour évoquer tous ces sujets, avec nous en studio, Nabil Djellit. Bonsoir Nabil.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Ça va, vous avez passé une bonne soirée ?
Eh bien écoutez, exceptionnel, on s'est régalé.
C'est peut-être mieux hier ? Plus de suspense, non ?
Ouais, encore que, les deux matchs ont été intéressants.
David Lortolari, bonsoir.
Bonsoir Annie, vous voulez des superlatifs tout de suite ou...
Allez-y.
Non, pas forcément exceptionnel, mais du bon football. Et Arsenal nous a régalé vraiment.
Oui, c'était très intéressant. Et puis on rejoindra d'ici peu et Thomas de Saint-Léger à Madrid et notre ami espagnol Manu Terradillos, qui nous donnera un peu son avis aussi en tant son regard d'espagnol. David Finzel, fidèle au poste, ainsi que Laurent Saint-Arnaud, Radio Foot, c'est parti.
Saka, la petite pichenette et ça fait 1-0 pour Arsenal. Le stade Santiago Bernabéu climatisé, Bukayo Saka, l'égalisation, on s'y attendait pas, on regardait du côté des fans d'Arsenal et c'est Vinicius qui égalise pour le Real Madrid et ça fait un partout. Et attention au contre avec Martinelli parce qu'il est beaucoup plus rapide évidemment, Martinelli face à Thibaut Courtois et c'est le but du 2-1 pour Arsenal, le calice jusqu'à l'Ali pour le Real Madrid et le stade qui va se vider forcément. C'est une soirée cauchemar à Bernabéu. Il y a l'élimination, il y a la défaite. C'est pas une humiliation non plus, mais ça fait mal.
La descentada, écrivait un auditeur il y a quelques instants en fin de retransmission. Je savais que ça vous plairait, Nabil. Descente aux enfers pour les Merengues, leurs 15 étoiles, signe de 15 victoires dans cette compétition, n'ont pas réussi à pousser l'équipe vers une qualification. Battue 3-0 à l'aller, ils ont été battus à Madrid chez eux 2-1. Score total 5-1 face à ces Gunners. Thomas de Saint-Léger, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Bon, vous avez déjà beaucoup tenu compagnie avec nos auditeurs, mais nous allons encore vous monopoliser quelques secondes. Cette équipe du Real Madrid, on en parlait avant, on avait tous un peu de mal à croire qu'il reviendrait sur le score de 3-0, mais quand même, on a la sensation après 90 minutes qu'on n'a pas vraiment vu cette équipe capable de renverser la situation et encore moins de renverser Arsenal.
On a la sensation qu'ils auraient pu jouer 180 minutes sans mettre en danger une seule fois Arsenal. Le seul but, c'est un but alors que Vinicius va chercher dans les pieds de Saliba, d'accord, mais il y a un vrai problème de d'inspiration en fait dans le jeu du Real Madrid. Je ne sais combien de centres, on a cessé de les compter au bout d'un moment, de centres un petit peu désespérés en espérant toucher à un coéquipier dans la surface de réparation, alors que vous avez la patrouille, la Royal Air Force de l'autre côté avec un Saliba qui est impérial dans les airs. Enfin voilà, problème d'inspiration, problème aussi sans doute physique. On les a vus perdre énormément de duels. Clairement, ce Real là n'était pas armé pour une remontada, et tous les discours d'avant-match à la lecture du scénario de ce soir nous semblent nous ressemblent à de la communication bien préparée, mais en sachant pertinemment que ça n'allait pas fonctionner, quoi.
Nabil Djellit, votre regard sur cette rencontre?
Il n'y a pas eu match. C'est-à-dire que quand à la mi-temps, vous êtes à domicile, vous êtes le Real Madrid, que vos forces offensives sont des joueurs censés être au niveau Ballon d'Or, que vous terminez la première mi-temps avec zéro tir cadré, que votre meilleure situation, c'est peut-être un pénalty que monsieur Le Texier a failli vous offrir. Heureusement qu'il a été repris par la VAR. Donc en fait, Thomas a très bien résumé les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu rester toute la nuit à les regarder jouer. On a compris.
On sera endormi avant.
Ouais, que ça passerait pas. Et on a surtout aussi compris qu'en face, il y avait une grosse équipe.
David Lortolari?
Oui, c'était difficile de penser à un renversement par rapport au cours de la saison à Nice, par rapport à ce que l'aller nous avait montré, par rapport à l'équilibre d'Arsenal qui s'est confirmé ce soir. On a des joueurs magnifiques en attaque. On a vu aussi, alors il y a évidemment le petit épisode Saliba, la petite erreur de défense où il perd un peu, il est un peu dans un trou noir l'espace d'une demi-seconde au milieu de deux attaquants du Real.
C'était presque le meilleur attaquant du Real.
Mais j'ai la sensation même que la victoire finale d'Arsenal correspond à ce qu'on a vu. C'est-à-dire on s'est dit plusieurs fois, à 0-1 pour Arsenal, on se dit, tiens, il va y avoir l'orgueil du Real qui va se réveiller. Finalement, non. Un partout, ok. On dit, tiens, le Real va un peu se réveiller.
Ouais, on les voit là, Bamos.
Voilà,
Bamos.
Exactement. On a vu le visage de Bellingham, se dire, tiens, est-ce qu'il va rameuter? Mais il n'y avait pas, en fait. Il y avait pas
un moment, Bamos, c'est
pas
bien.
De matière.
Jouer au football bien, c'est mieux, quoi. Non, mais ils ont juste été rattrapés par la patrouille, tout simplement. Déjà, à l'aller, on rappelle qu'il y a eu 3-0, donc ils étaient dans une situation plus que délicate.
Alors,
ils ont su mobiliser les énergies, l'environnement entre eux, ce qui démontre évidemment que c'est un club immense. Et ils ont eu bien raison de mobiliser.
Oui, et ça le reste, le club. Mais ça, l'équipe.
L'équipe, Annie, de toute façon, on a très bien compris ce qui s'était passé. C'est-à-dire que c'est les tenants du titre. Déjà, la saison dernière, ça tenait sur un fil. Et ils ont perdu des joueurs hyper importants. Je ne sais pas si on en parlera, mais
oui,
en tout cas.
On va y venir.
En tout cas, c'est une équipe qui est en tout cas beaucoup moins opérationnelle que la saison dernière.
Thomas de Saint-Léger, avant de vous libérer, racontez-nous quand même cette ambiance que vous avez vue dans ce stade et qui a dû tourner évidemment à la tristesse, puisqu'on vous entendait dire que certains joueurs, certains spectateurs partaient avant la fin et ça faisait la différence sans doute avec l'enthousiasme avant, et je pense à ce supporter malien que vous avez rencontré qui a déboursé beaucoup d'argent pour voir ce match.
Oui, c'est un petit peu la cocotte minute qui s'est mise à siffler un petit peu trop rapidement et qui s'est complètement éteinte quasiment avant la mi-temps. Hein, finalement, je crois que tout le stade, tout le monde ici a compris que ça n'allait pas être ce soir. Que ça n'était pas pour ce soir la remontada. Et l'ambiance, elle était phénoménale. Des 15 minutes qui ont précédé le coup d'envoi à la 15e minute de jeu. Je crois que même le pénalty arrêté par Courtois sur la Panenka de Saka a un petit peu relancé la foule, puisque évidemment il est allé haranguer le public. Courtois, on s'est dit, tiens, peut-être ça peut tourner sur cet événement-là. Mais assez vite, on s'est rendu compte que non. D'ailleurs, ça s'est éteint à partir d'un moment très précis. Il y a eu un très long temps mort sur la décision du pénalty ou non à accorder. La décision. nous, on était tous d'accord. Hein. Je ne sais pas si vous nous écoutez, mais on était tous d'accord. Il n'y a jamais pénalty. Mbappé, il est à 2 mètres du ballon. Et donc, il y a eu un très long moment pour prendre cette décision. Et ça a cassé le rythme du Real qui, n'était pas en train d'emballer la rencontre. On ne va pas survendre non plus. Ouais. Mais on sentait que quelque chose pouvait se passer à ce moment-là. Ça a complètement cassé le rythme. Et derrière, tout le monde s'est endormi. C'était le bel endormi, le Bernabéu, ce soir.
Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International. Et puis un salut à Pierre Chaperon, bien sûr, le correspondant qui a si bien commenté avec vous cette rencontre du côté de Madrid. Madrid, des Espagnols, eh bien, allons vers notre ami de Radio Foot qui travaille pour le service en espagnol, Manu Terradios, qui était avec nous en première partie. Bonsoir Manu.
Buenas noches, bonsoir à tous.
Buenas noches. Decepcionado?
Oui, pas dépité, comme on entendait tout à l'heure, parce que c'est une confirmation de ce qu'on a vu les derniers matchs, les dernières semaines, les derniers mois. C'est pas dépité, serré, les PSG s'étaient tombés face à Liverpool. Madrid, je crois que les supporters, c'est vrai qu'il y avait cette mystique avant les matchs, mais bon, là ça rentrait dans celle-là qui pourrait
Elle
se passer.
Elle a des limites.
Oui, on parlait l'avant-match, non? On disait cabeza, corazón, cojones, non? Tête, cœur, courage. Il y a un peu, il y a du cœur, il y a du courage, mais il y a pas des têtes, il y a pas des foot, et c'est pas que ce soir, et c'est depuis des semaines. L'histoire de la VAR, les pénalties, je suis d'accord avec le fait que ça c'était pas des pénalties, mais il y a une erreur énorme de protocole, parce que dès que l'arbitre, dès qu'il y a une action qui existe, et c'est à l'arbitre de juger l'intensité, la barre, elle doit pas rentrer. Et ça, c'est une question de protocole. C'est 5 minutes que les matchs étaient arrêtés, qui ont complètement tout cassé. Je sais pas si c'était les meilleures minutes. C'était probablement les meilleures minutes du Real Madrid, mais qui étaient pas très bonnes non plus. Et bon, et à partir de cela, pour moi, l'Arsenal, c'est clair qui a bien mérité de se qualifier. Deux questions à surveiller maintenant. Et Mbappé, la blessure, parce qu'il y a la finale de la Coupe du Roi qui arrive en 10 jours.
La cheville qui a tourné.
Ouais.
Ouais.
Et Ancelotti, moi, j'avais entendu déjà, on m'avait dit que la décision était déjà prise. Là, je crois qu'elle est prise doublement. Mmh. Et il y a même quelqu'un qui m'y a dit, et attends voir qu'est-ce qui se passe pour la Coupe du Monde de club et s'il sera.
Ah oui, c'est intéressant.
Mmh. Ouais, ça bon, pourrait
c'est-à-dire
être
qu'il y a
aussi
des rumeurs quand même, on le rappelle, il a déjà été annoncé à plusieurs reprises du côté du Brésil.
Oui, comme sélectionneur.
Voilà, bon.
Comme
sélectionneur. Et Xabi Alonso, mais on n'y est pas, mais en tout cas,
annoncé, mais surtout, c'était un rêve. Ouais. Il l'appelait. Maintenant, ouais. Est-ce que vraiment il arrivait d'être sélectionneur du Brésil? En tout cas, jusqu'à présent, peut-être pas. Oui, ça sera intéressant, effectivement, de suivre ce qui se passera autour d'Ancelotti. Mais pour l'instant, on va écouter une première réaction dans ses rangs des Merengues. Et c'est celle d'Aurélien Tchouaméni.
On est déçus parce qu'en commençant cette double confrontation, on avait à cœur de continuer dans cette Champions League. Après, la vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur les deux confrontations. Il nous a manqué des choses. On a essayé de donner le maximum, de créer des occasions et de renverser la tendance aujourd'hui, mais c'était pas suffisant. Donc félicitations à eux. Et on va continuer jusqu'à la fin de saison pour donner le maximum pour gagner des titres.
Manu Terradios, est-ce que pour une équipe comme le Real, la saison est fichue parce qu'on est éliminé en quart de finale quand on a gagné l'année dernière, quand on en a déjà gagné 15, quand on en gagne beaucoup?
Facilement, et ça passe pour les supporters du Real et de Barcelone. La chose la plus importante pour un supporter de Madrid ou Barcelone, c'est gagner la Ligue des Champions. La deuxième chose la plus importante de la saison, c'est pas gagner la Ligue, c'est que l'autre n'ait gagné pas la Ligue des Champions. Et ça, s'il y a quelqu'un qui vous dit non, mais la Ligue, il faut être régulier, c'est hyper important. Non, ça c'est comme ça. Donc déjà, la saison ne sera pas bonne. Après, si à la fin de la saison, les Barcelone s'est fait éliminer, les Real gagner la Ligue et la Coupe, ok. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont pas sur les bons chemins ni pour gagner la Coupe, ni pour gagner la Liga.
Ouais. C'est dur d'être un grand club espagnol et surtout d'être toujours dans cette dualité. Nabil, ce soir, il le dit, Aurélien Tchouaméni, la vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs, ceux d'Arsenal. Et c'est ce qu'on a vu dès le départ, finalement.
Sur la double confrontation, de toute façon.
Ils ont osé, dès le départ, pratiquement, aller à l'assaut.
Oui, et puis la question, c'était de savoir comment... Parce que c'est une équipe assez jeune, quand même, Arsenal, un peu plus âgée que celle du Paris Saint-Germain. Bon, elle est sur un cycle haut, puisqu'elle est construite depuis plusieurs saisons. Il y a eu des échecs. Ils n'ont toujours pas gagné le championnat d'Angleterre. Ils vont probablement terminer deuxième. Donc, de toute façon, pour eux, c'est une compétition majeure. Et puis, il y a une histoire contrariée, rappelons-le, entre Arsenal et la Ligue des Champions. Hein. C'est un club qui l'a pas vu il y a très longtemps. La saison dernière, ils étaient revenus, ça faisait 7 ans qu'ils étaient qu'ils étaient pas là. La question c'était savoir est-ce que mentalement ils allaient gérer les émotions. Vous êtes forcément impressionné quand vous allez jouer à Madrid, vous allez jouer contre le meilleur club du monde. Et face à vous, il y a quand même des extraterrestres.
Enfin, le plus grand, le plus grand. Pas forcément.
Dans l'histoire des Coupes d'Europe, en tout cas, oui. Et vous avez aussi des joueurs extraordinaires. Et puis surtout, vous avez le passé récent de cette équipe qui a été capable, sur des faits de jeu, de retourner des situations qu'on pensait perdues. Donc tout le monde. Parce que moi, je ne sais pas vous autour de vous, mais tout le monde m'a envoyé des messages. Oh, ils vont le faire, 3-0, tout le monde. Enfin, comme si c'était écrit avant, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tellement contaminé.
Créé une mystique.
Contaminé les cerveaux des gens, que de toute façon, tu dis,
c'est 2-0. C'est du Real, d'ailleurs.
Ils vont avoir un coup de pouce de l'arbitrage. Il y en a qui t'écrivent même les scénarios avant. Mais là, ils ont été. Alors, c'est Flick qui entraîne le FC Barcelone, mais ils ont été rattrapés par la patrouille, là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été rattrapés par leur niveau réel, qui est un niveau en fait insuffisant pour aller plus loin. Et je trouve que c'est la pire équipe par rapport aux 8 là, des quarts de finale en termes de football. Ouais. J'ai trouvé que c'était la plus mauvaise équipe, le Real.
Mais oui, et on a l'impression, David, que bon, ça va, ça passe, ça peut passer. Mais il y a un moment où on se dit la plaisanterie a assez duré. Quoi. Cette année, c'était pas possible. Depuis le début de saison, on les observe. Alors, ils ont été même en tête de la Liga à un moment. Et puis, ils l'ont perdu depuis de nombreuses semaines, cette tête de la Liga.
Là, il y a plein d'équipes joueuses. Alors, on va pas réécrire, refaire le scénario, changer les équipes, les face-à-face, mais on imagine qu'un PSG joueur serait supérieur au Real de soir, qu'un Bayern joueur est supérieur également, qu'un Barça est supérieur
L'Inter
également.
L'Inter les aurait battus.
Et moi, ce qui me frappe un petit peu, alors après, il faudrait une analyse peut-être plus longue, mais parce qu'il y a la fin de cycle aussi avec Carlo Ancelotti, mais on a l'impression d'une fossilisation, c'est-à-dire déjà, d'une part, le Real ayant gagné le trophée ne peut faire que moins bien en quelque sorte, à moins de faire la même chose, mais vous ne pouvez pas faire ça non plus 10 ans sur 10. Et il y a plein de joueurs là, Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, c'est peut-être le moment de la saison qui veut ça, je ne sais pas. Bellingham à un degré moindre, d'autres aussi au milieu de terrain, on pense évidemment à ceux qui sont partis, on pense à Modric. On a l'impression qu'ils sont bloqués, fossilisés, c'est stop quoi pour le Real quoi. Ces joueurs-là n'ont pas pu passer le stade supplémentaire, inquiéter l'adversaire, renverser le scénario. J'ai été frappé par l'impuissance du Real ce soir à Nice, qui est quand même très très rare, parce qu'on les a vu retourner des situations improbables, on les a vu retourner des scores très défavorables, on les a vu bénéficier de circonstances de jeu très régulièrement sur les X dernières années, depuis la période noire de début des années 2000, où ils butaient sur les 8e de finale, mais sur les 15 dernières années, c'était toujours le Real qui était finalement le vainqueur à l'arrivée. Et là, ce soir, Nabil a raison d'insister sur la double confrontation, parce qu'à l'aller, c'était pareil. La sensation que cette équipe aujourd'hui ne peut pas aller plus loin. Et dès les premières minutes du match, j'ai ressenti cette impression que le Real ne pouvait pas faire plus.
Comme s'il manquait un moteur, en fait, ou un turbo.
Les moteurs, ils l'ont perdu.
Ils sont, si vous me permettez, ils sont épuisés. Ils sont épuisés mentalement et physiquement pour plusieurs raisons.
Ce soir, les statistiques disent encore qu'ils ont couru beaucoup moins.
Beaucoup moins, oui.
Mais vous savez-vous comme il a fini Bellingham, mais ça fait déjà 4-5 matchs qu'on voit les mêmes visages quand il termine, il est complètement épuisé. Différents soucis, les blessures, ok, mais aussi la façon dans laquelle l'effectif a été géré. Et là, j'étais étonné aujourd'hui, triple changement au bout des 60 minutes, c'est une nouveauté pour Carlo Ancelotti. Parce que là, on voit les changements au bout des 85 minutes. L'équipe, il est épuisé physiquement cette saison, mentalement, parce que tout pouvait jouer mieux ou pire, mais quand même les dernières saisons, avoue qu'ils étaient ultra compétitifs, même s'ils faisaient match nul à Manchester face à City, tu disais ok, ils sont pas assez bons pour gagner là-bas, mais quand même l'équipe était compétitive, et tout ça s'est perdu. Je crois qu'il y a aussi une fatigue mentale au bout des saisons et des saisons de gagner, d'aller jusqu'au bout, de forcer. Finalement, à un moment donné, il faut payer les prix, bon voilà.
Mais Manu, toi qui les connais mieux que nous, bon, il y a quand même aussi une dimension politique. On peut pas passer à côté, parce que pour les gens qui font des mathématiques, le Real, c'est une équation insoluble. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'Mbappé, il y a très vite eu une impasse tactique. Je rappelle qu'ils ont gagné sans lui la saison dernière. Tu parlais de Bellingham qui se surmultiplie, qui s'est épuisé. Je pense que lui, si tu l'attrapes dans un coin et tu discutes avec lui en off, à mon avis, tactiquement, sa saison, il va te dire on n'aurait pas dû jouer comme ça du tout, parce que ce n'était pas possible et que c'était limite kamikaze.
Et l'année dernière, il était rentré dans l'effectif.
C'est exactement la même mathématique qu'ils ont fait à Paris avec Homme, et non, on gagne et qu'il n'est pas là. Et tu crois qu'Mbappé, il est en train de faire une mauvaise saison avec les Real? quel est son boulot? Son boulot, c'est marquer des buts. Il est en train de marquer des buts. Vinicius, c'est pour moi celui qui est pas vraiment bien centré dans cela qu'il faut faire. Rodrigo, c'est pas Rodrigo de la dernière saison. Et finalement, Ancelotti, il a sacrifié des joueurs comme Valverde, qu'il a fait jouer en défense parce qu'il y a la blessure de, je me souviens plus du prénom, excusez-moi.
Vasquez?
Carvajal, excusez-moi. Vasquez, c'est un bon remplaçant, mais il n'est pas capable de jouer.
Vasquez, tu te souviens à l'époque de Zidane?
40 matchs.
À l'époque de Zidane, il avait fait le boulot, Vasquez à droite, même avec
oui,
Nacho.
Oui, mais il faisait
le boulot.
Ouais. On vieillit tous. Et Bellingham, il a payé les prix des devoirs. Il a payé les prix des devoirs. Des devoirs, c'est sacrifié pour combler tous ces déficits qu'il y avait aux différents niveaux en défense, au milieu de terrain et aussi à l'attaque.
Nabil, ouais. Il est sorti sur blessure, vraisemblablement une cheville qui a tourné. Bon, on ne connaît absolument pas les conséquences pour l'instant. Mais vous disiez tout à l'heure, est-ce que Kylian Mbappé ne sera pas finalement un peu le bouc émissaire?
Bien sûr que ça va être le bouc émissaire médiatique. Il n'est pas responsable de tout. C'est vrai qu'à tous les étages, on peut trouver des éléments d'explication. En défense, on peut dire qu'il y a des blessures.
Peut-être qu'Ancelotti, il n'a pas été courageux ou qu'on l'a obligé à faire jouer ces quatre ensemble.
Ce qui n'a pas été cité en fait, depuis le début, c'est Florentino Pérez. Quand tu fais venir un joueur comme ça, soit tu construis l'équipe autour de lui, mais tu ne viens pas faire comme à l'époque là, des Galactiques avec des extraterrestres devant, des joueurs moyens ou du bricolage derrière, une équipe coupée en deux et une équipe qui est déséquilibrée. Attendez, Annie, sur la double confrontation, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'ils prennent un 5-2, quoi. Ils prennent 5 buts, quoi. Le Real.
5-1,
pardon. Je me suis emballé, j'aurais rajouté un pénalty qui n'a pas été
bonus
cité.
Real.
Et pour moi, en plus du déséquilibre tactique, Mbappé, de toute façon, il est à un nouveau poste, puisque c'est plutôt un garçon qui jouait à gauche. Je suis d'accord avec Manu. Vinicius, depuis qu'il a perdu le ballon d'or, il est méconnaissable. Et à mon avis, il vaut mieux qu'il parte. Et surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est que il n'y a pas de vitesse dans le jeu, il n'y a pas de créativité. La salle des machines, elle est trop moyenne. Quand tu vois le milieu de terrain d'Arsenal, quand tu vois le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, quand tu sais que Kroos, parce qu'on n'a pas cité son nom, il n'est plus là, quand tu sais que Modric, il a 39 ans, que tu sais que derrière, je suis désolé, Tchouaméni et Kamavinga, que j'aime bien, c'est pas le niveau de ces joueurs-là.
On peut en citer d'autres même, qui ne sont pas dans le coup.
C'est pas le niveau de ces joueurs-là. Il y en a un, effectivement, qui est très bon, mais qui a fait les pompiers parce qu'il a joué à droite, c'est Valverde. Mais au bout d'un moment, ça suffit pas, c'est tout. Et il faut vraiment changer l'équipe la saison prochaine parce que ça ne marchera pas non plus s'il continue comme ça.
L'arbitre est très français, David Lortolari. Il y a eu quand même des interprétations et on a eu l'impression qu'il avait mal lancé le match, en fait, le Tellier, avec ce pénalty au bout de 10 minutes, après la 23e minute.
On était inquiet pour lui, quoi.
Oui, alors j'aime bien votre présentation, Annie, quand vous dites interprétation, parce que c'est un peu... Moi, je veux donner le bénéfice aussi du doute et de l'expertise aux arbitres et à ce staff. Manu parlait du protocole. Effectivement, il y a des choses qui sont surprenantes. Après, pour moi, enfin, je veux dire, c'est pas un argument sous prétexte qu'un joueur est à 50 mètres du ballon. S'il ceinture un adversaire, c'est une faute. Donc, l'arbitre a la liberté de la siffler. Effectivement, début de match, quart de finale, retour de Ligue des Champions, on peut trouver ça surprenant, désagréable, éventuellement même, on pourrait dire, de mauvaise foi, même si c'est pas censé passer dans l'esprit des arbitres. Moi, le premier pénalty me paraissait pas surprenant. Le deuxième sifflé, finalement, on revient dessus après plusieurs minutes de discussion. Il n'y a pas réellement pénalty là.
Ça prend du temps parce qu'il n'y a pas que le pénalty qui vérifie. Il vérifie des situations de hors-jeu possible.
Effectivement.
Moi, j'y croyais qu'il vérifiait quel est hors-jeu. Parce que j'ai dit, dès que l'action elle est produite.
Il faut
simplement mesurer l'intensité quand il a été ceinturé. Là, la VAR a rien à dire.
Mais je pense que dès qu'il
a sifflé les premières pénalties, moi j'ai un peu l'impression de que voilà, maintenant c'est open bar. Si tu sifflais celui-là, tu peux siffler un autre. Tu auras un peu plus de liberté pour siffler un autre pénalty.
Il y a eu un moment de flottement, on va dire, sur les décisions arbitrales. Pour terminer, Manu Terradios, et maintenant, je dirais, du côté du Real, on revient aux affaires courantes. C'est la Liga, c'est un classico qui se présente dans pas si longtemps. Et un autre classico en finale de Coupe du Roi.
Ouais, on a un mois et demi de compétition qui vont sembler 6-7 mois pour le Real Madrid, évidemment. c'est pas facile de reprendre les affaires courantes, non. On va parler plutôt de l'été, ça c'est clair. Et on va voir ce qui se passe à la finale de la Coupe du Roi, parce qu'on avoue qu'est-ce qui s'est passé face à Barcelone les dernières fois qu'ils sont affrontés. Et puis, simplement, et quand on parle d'équilibre et pas d'équilibre, pour moi, c'est pas une mauvaise équipe. Quand tu dis Valverde, on va dire Tchouaméni et Bellingham, et puis les trois qui attaquent, hein, on a eu les Barcelone de Luis Suarez, de Messi et Neymar. Le problème, c'est la façon d'affronter les matchs. Si tu joues comme ça, il faut avoir les ballons, il faut être très vite, il faut que les ballons bougent. Donc, et je crois qu'il n'y aura pas trop énormément de changements.
Moi, je vois Vinicius partir ou devoir partir.
Je ne suis pas si sûr.
Oui, mais, non, c'est pas si sûr, mais je serais lui, moi je réfléchirais à partir.
On ne peut pas écarter cette possibilité. Hein. Mm. Il y a un an, il y a deux ans, c'était impossible. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui arrive avec 200, 300 millions, ils vont réfléchir. Ça, je peux te le dire, c'était lequel. Mais bon, cela dit, je crois qu'on
verra.
On va commencer par les Xabi Alonso, on va commencer voilà, et puis essayer de finir la saison le meilleur possible. Il y a encore deux titres à jouer, trois avec la Coupe du Monde de club.
En tout cas, l'homme du match ce soir, eh bien, c'était dans le camp anglais et c'était de nouveau un certain Declan Rice. Écoutez.
Honestly, back to back, can't believe it. What a night for the club, historic. And yeah, this is it's very special. Let's go.
Voilà, on lui remettait son titre d'homme du match. Alors, comme il n'a pas provoqué de pénalty, c'est lui qui a eu le trophée. En tout cas, on avait vu ce beau tifo, hein, ce joueur d'échecs au moment du coup d'envoi. Et c'était un très beau tifo dans les tribunes de Bernabeu. Et puis, 7 minutes de silence, notamment pour Mario Vargas Llosa, l'écrivain péruvien, prix Nobel de littérature et qui était aussi de nationalité espagnole. Peut-être aussi supporter du Real, non, Manu?
Oui, il y a la minute avant les matchs pour lui rappeler, oui.
Mm-hmm, ouais, un socio ou en tout cas un admirateur. Muchas gracias, merci beaucoup Manu Terradillas d'avoir été avec nous.
Merci à vous et laissez-moi vous rappeler, le foot c'est la chose la plus importante de tous ceux que c'est les moins importants. Donc allez, la vie continue.
Oui, bien sûr. Et puis vous viendrez nous parler du Barcelone, hein, puisque eux ils continuent dans la compétition. Il y a toujours un club espagnol. Merci beaucoup.
Bonsoir
Manu.
À tous.
Allez, on continue parce qu'il y avait un autre match et celui-là, il était plutôt bien.
Ouais.
Le rugissement de Giuseppe Meazza, l'Inter l'a fait, l'Inter est en demi et l'Inter est toujours en course, comme en 2010, pour un triplé historique.
Alors, au défi des éléments qui étaient déchaînés dans le ciel de Milan, du vent, une pluie battante, par moments on avait du mal à distinguer vraiment les joueurs, eh bien les interistes ont résisté aux assauts bavarois. Le Bayern de Munich a quand même, alors contrairement, on était à 0-0 à la mi-temps, mais ensuite ça s'est déchaîné et on a l'impression quand même que là, le Bayern, il avait mis les éléments de son côté quand même pour essayer de revenir au score, David Lortolari.
Oui, avec des...
Ça se finit sur un total de 4-3 hein, sur les deux matchs.
4-3 pour l'Inter, un but d'avance.
Qu'ils avaient à l'issue du match aller.
Des symboles forts, parce que Harry Kane a marqué un but important qui ouvre le score pour le Bayern et qui dit « Oui, il n'y avait qu'un seul but d'écart, donc c'est désormais possible. » On était à ce moment-là en possible prolongation. Mais ça, c'est l'une des forces de l'Inter. Dans notre analyse, on peut évidemment en parler. Et je pense que c'est l'une des forces de l'Inter. Il a fallu quelques minutes derrière, après cette ouverture du score de Harry Kane. Nous, devant notre téléviseur, on se dit « Quelle va être la réaction de l'Inter ? Est-ce que ça va être une réaction à l'ancienne ?»
Ils égalisaient, 2-2.
On défend, on essaye d'éviter d'en prendre un deuxième. Pas du tout. L'Inter s'est appuyé sur un excellent Lautaro Martinez et est allé marquer une égalisation très très vite. Et derrière, ça met forcément un coup derrière la tête de celui qui vient de difficilement prendre l'avantage. Le Bayern a beaucoup essayé, notamment Michael Olise qui a été très actif, qui n'a pas ménagé ses efforts. Thomas Müller non plus, dont ça on n'en a pas encore conscience, mais c'est sans doute le dernier match de Ligue des Champions, lui qui en a disputé tellement.
Il était
tellement.
Titulaire et capitaine.
Le Bayern, il a manqué. Alors il a manqué différentes choses. Il a manqué peut-être un Moussiala qui est absent en ce moment. Il a manqué peut-être de la stabilité en défense parce que cette équipe n'inspire pas confiance quand les interistes qui sont aussi forts dans le duel aérien sont allés gratter des ballons dans la défense du Bayern, notamment Minjae Kim, assemblé orphelin de Dayot Upamecano, par exemple. L'absence d'Alphonso Davies n'offre pas de solution dans les couloirs autant qu'il y en a habituellement. Vincent Kompany est un jeune entraîneur. Il a fait rentrer tardivement des Gnabry, des Coman. Il y a eu quand même des phases importantes à la fin, mais ça n'a pas suffi. Et il me semble, Annie, que la semaine dernière et aujourd'hui sur l'ensemble des 3 heures de jeu, l'Inter, solide, a mérité, c'est un petit but d'avance, mais a mérité de se qualifier.
Et ce but d'avance, eh bien, c'était grâce à un personnage qu'on connaît bien, nous les Français, notamment depuis 2018, un certain Benjamin Pavard, incontestable défenseur de Séné Razzurri.
Très fier de l'équipe, on a fait un gros match, c'était pas facile, on a beaucoup souffert, mais voilà, très fier de l'équipe, on a couru ensemble, on voit qu'on est une grosse équipe, on fait les efforts les uns pour les autres, et maintenant on est tous très contents de la qualif. En plus, marqué à San Siro avec cette atmosphère, c'était quelque chose de spécial avec ma famille aussi qui était là, donc j'ai plus de voix, mais voilà, très, très content, très fier, et maintenant voilà, on va penser aux prochaines échéances.
Nabil, je ne vais pas vous demander de chanter, mais ce n'était pas une frappe de bâtard. C'était sur un corner. Ouais, mais quand même, Benjamin Pavard, incontestable, hein, défenseur dans cette équipe de Simone Inzaghi ces temps-ci.
Ouais, l'histoire, elle est quand même cocasse, puisqu'il a joué 7 ans du côté du
Bayern Munich.
Stuttgart d'abord, puis le Bayern. Mm-hmm.
Il a tout gagné avec le Bayern, et c'est lui ce soir qui les élimine, quoi. Donc, je vous écoutais la dernière fois, vous parliez de son rôle, notamment dans une défense à 3 qui le correspond parfaitement. C'est vrai qu'il a toujours été ballotté, notamment en équipe de France, entre latéral et central, mais central, il y avait du monde. Là, le système à 3, il lui correspond parfaitement. Il dit que tout le monde court, tout le monde participe. Et puis, il est assez lucide pour vous expliquer que c'est une grosse équipe, parce que l'Inter, c'est une grosse équipe, c'est une équipe redoutable. Je me souviens qu'ici, on en avait parlé au moment de la présentation du match face au Bayern et on avait clairement dit qu'il y avait match, que c'était une équipe qui était redoutable. Vous parliez tout à l'heure de Lautaro Martinez, qui est un joueur qui est de plus en plus, lui aussi, candidat à un potentiel ballon d'or, disons-le comme ça se présente, parce que l'Inter, ils vont probablement être champions d'Italie, mais s'ils continuent à ce rythme-là en Ligue des Champions, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas...
il est décisif les deux fois.
Ils ne seraient pas capables de le prendre.
Ils seront face au Barcelone.
Alors, je regardais tout à l'heure, en fait, ça fait penser à l'Inter de 2010, quoi, de Mourinho, c'est-à-dire que c'est une équipe mature, avec un assemblage de joueurs qui viennent un peu de partout, avec des trajectoires de grands talents, de lieutenants, de revanchards, et puis une équipe qui a été construite par Conte, qui a été reprise par Inzaghi, qui reste sur le même système et le même logiciel de jeu, avec des pistons hyper, hyper efficaces. Une doublette, on avait eu par le passé Lukaku, Lautaro Martinez, mais Thuram, Marcus, oui, notamment décisif sur le match aller, exceptionnel avec une talonnade.
Il nous a fait
une boutique pour Benzema du côté du Real à l'époque. Donc en fait, c'est une équipe complète, redoutable. Et pour terminer, rappelons qu'il y a 2 ans, ils étaient en finale de Ligue des Champions. Donc en fait, ça veut dire que concrètement, ils ne sont pas là par hasard. Ça va être hyper excitant leur match face au Barça. Moi, je suis le Barça, j'aurais préféré tirer le Bayern. Parce que le Bayern, défensivement, ils sont plus fragiles pour les raisons qui ont été dites notamment par David. Donc je trouve que c'est bien, il y a de la diversité. Ce dernier carré, je le trouve sympa, avec des belles équipes. T'as l'Inter, t'as une équipe qui est un peu mature comme ça, avec de la qualité, parfois même des joueurs sous-cotés. T'as le Barça qui revient avec son attraction avant. T'as le Paris Saint-Germain qui est enfin une équipe. Et t'as enfin Arsenal qui peut-être être un club anglais capable de nouveau de gagner la Ligue des Champions après Liverpool et Manchester City sur ces dernières années.
Le Bayern, si on parlait tout à l'heure, parce que deux grands d'Europe viennent de sortir quand même, hein, oui, à eux deux, c'est, je crois que c'est 21
Coupe
d'Europe.
En fait, le Bayern, quand il rate une compétition à Nice, c'est quart de finale. Oui. Voilà. Non, mais c'est pour vous situer quand même la puissance de ce club et,
bah oui,
et son institution.
Mais même le Real, ouais, si on en réfléchit, oui, on ne peut pas gagner non plus toutes les saisons.
Mais eux, il n'y a pas de saison de transition. Oui. C'est-à-dire que si tu ne gagnes pas, c'est une mauvaise saison.
Exactement. Mais justement, Autant Carlo Ancelotti semble sur le grill, bon, et puis peut-être envie de rénovation du côté de la Casablanca. On a vu ces dernières années le Bayern hésiter sur ses entraîneurs, les changer très vite, Nagelsmann, Tuchel qui n'est pas resté. Ouais. Est-ce que là, Vincent Kompany, on l'a choisi? C'était la première fois qu'il dirigeait un grand club, mais est-ce que, selon vous, on va continuer avec lui du côté de Munich?
Oui, parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'un entraîneur, alors ça a été le choix numéro 6 ou 7 hein, dans l'histoire de faire venir un entraîneur. Finalement, Vincent Kompany arrive. C'est la première fois depuis bien longtemps qu'un entraîneur du Bayern fait l'unanimité dans les étages. C'est-à-dire que tout le monde est OK pour cet entraîneur. Lui donner du temps, apprécier sa façon de jouer, qui est risquée, qui est imparfaite. On les a vus, je l'ai dit plein de fois à ce micro au cours de la saison, mais on les a vus en prendre 3 ou 4 contre le Barça, on les a vus en prendre 3 contre Francfort. Mais il y a des buts.
Et puis là, il n'était pas aidé par les absents quand même.
Oui,
vous
c'est
l'avez
ça.
Très bien dit.
Oui, oui, absolument. Donc Vincent Kompany a sans doute du crédit, sauf que dans un club comme le Bayern, on regarde quand même avant tout ce qui se passe dans la scène domestique. Et quand il y a un club qui vient passer devant ou qui vient mordre les mollets de l'ogre bavarois, on dit on va un peu essayer de récupérer ses meilleurs éléments. C'est vrai pour Florian Wirtz, même si ce sera très cher à Leverkusen, mais il pourrait aller vers
du Bayern.
Vers le Bayern, mais Xabi Alonso, il y a beaucoup d'intérêt aussi de la part de Karl-Heinz Rummenigge, de la part d'Uli Hoeness, de la part des dirigeants actuels pour Xabi Alonso. On imagine qu'il aille vers l'Espagne, vers son pays, vers le Real, mais au Bayern, il a été joueur là, il a laissé un super souvenir. Et on aura peut-être aussi l'œil sur ce qu'il va faire. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il va remplacer Vincent Kompany dès cette saison. D'autant plus qu'on en parlait hors antenne, Annie. C'est pas infamant, là, ce qui s'est passé.
Non.
Il y a beaucoup d'absents.
Puis ils sortent contre une grosse équipe.
Non, alors il y avait eu un peu cette pression en plus, c'est-à-dire qu'il y aura la finale qui se disputera à Munich. Alors
oui,
ils auraient aimé
la
disputer dans leur stade. Mais bon, c'était quelque chose qu'on rajoutait
Il reste 5 journées de championnat. Ils ont 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Mmh. Si Leverkusen les dépasse, là, on en reparlera. Mais il faut attendre
Sans doute.
On n'y est pas quand même.
En tout cas, on va l'écouter, Vincent Kompany. Toutes ces interviews sont faites en sortie de terrain et par ceux qui retransmettent en exclusivité cette compétition, à savoir Canal+.
Je pense aux 180 minutes, on a fait deux bonnes prestations dans le sens où on joue contre une équipe de l'Inter qui est très bien organisée, qui est vraiment forte et qui est dangereuse aussi offensivement. Je pense qu'on parle souvent de l'aspect défensif de l'Inter, mais il y a un côté offensif aussi qui est vraiment redoutable. Mais malgré ça, sur les deux matchs, on se crée beaucoup d'occasions. On peut marquer beaucoup plus que ce qu'on a marqué. Et il y a l'aspect, bien sûr, défensif aussi, où il faut toujours faire un bloc. Il y a toujours le gardien qui joue un rôle, bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup d'occasions où on est capable de marquer. Et, peut-être qu'il y a un petit regret par rapport à ça. Mais dans 5 mois, il y a le premier match de Ligue des Champions à nouveau et tous les espoirs qui reviennent. Et dans 2 mois, il y a la Coupe du Monde des clubs. Tous les espoirs qui reviennent aussi et l'envie de ramener ce trophée. Et puis dans un mois, on va tout faire pour être champion en Bundesliga. Donc on peut regarder vers l'avant tout en ayant quand même des regrets.
Hein, il parle de la Bundesliga.
Oui, absolument, parce que ça va être pour lui, c'est pas une consolante, c'est l'indispensable reconquête du titre. Donc pour lui, ce serait une satisfaction, bien sûr. Très important, Annie, même rapidement, mais le réalisme. On fait le constat chaque saison à ce moment-là de la saison. L'Inter. Une occasion, un but sur l'égalisation à 1. Le Bayern, Kompany a raison de dire c'est un petit regret parce que son équipe, ça fait des semaines, elle a 12, 15, 18, 35 occasions et elle marque certes beaucoup de buts, mais il y a aussi plein d'occasions qui sont laissées à l'abandon. Et ça, contre une équipe comme l'Inter particulièrement, ben vous êtes puni. C'est-à-dire, si l'Inter a 3 occasions, elle va marquer 3 fois. Si vous en avez 18, vous marquez 3 fois. Ben à l'arrivée, vous êtes forcément déçu par rapport à ce que vous produisez. C'est peut-être ça qu'il va falloir améliorer pour cette équipe. Alors ça, après, je ne sais pas comment faire. Parce que quand vous avez Harry Kane, Kingsley Coman...
Olise.
Ouais, c'est quand même des joueurs qui sont efficaces malgré tout. Mais c'est le regret de la saison actuelle.
Et Müller, un mot pour lui ?
Bah oui. Ouais. Capitaine.
Ouais. Quel joueur, Thomas Müller.
Titulaire et capitaine. Ouais. Ouais. Extraordinaire.
Ouais, c'est un joueur marquant.
Ouais. Qu'on a adoré regarder. Ouais, moi, je me souviens de son éclosion, entre guillemets, c'était la Coupe du Monde en 2010,
oui,
en Afrique
du
Sud, avec cette Allemagne conquérante. Là, il avait été le meilleur joueur, je crois, meilleur jeune de la compétition.
Il sortait nulle part, non ? Il était en 3e division. Quoi, et puis, il arrivait en première.
2010, ça fait 15 ans. Bah, oui, à l'époque, il n'était pas encore chez les pros.
Oui, oui, il sortait un peu nulle part.
Il était très jeune au Bayern.
Quel joueur, fantastique.
Oui, puis sa rage de jouer. Alors, sans doute, était son dernier match, en tout cas de Ligue des Champions, avec le Bayern. Il y aura donc, ça sera les demi-finales et ça commencera les 29 et 30 avril, PSG, Arsenal et Barça, Inter. Eh bien, l'entraîneur Mikel Arteta, c'est déjà ancien joueur du Paris Saint-Germain, notons-le. Il y avait joué à l'époque de Luis Fernandez, si je ne me trompe pas. Eh bien, il s'est exprimé en sortie de terrain sur cette perspective.
Ce sera vraiment un moment très spécial. Je suis un très grand fan de Luis Enrique depuis plusieurs années. C'est un entraîneur incroyable. Ce qu'il a construit avec cette équipe, c'est vraiment spécial. Leur régularité, leur manière de jouer. J'ai aimé jouer là-bas. C'est vraiment spécial. C'était mes débuts en tant que footballeur professionnel.
professionnel. Nabil, ça va être un sacré match. Et on se souvient, parce que quand même, ils se sont rencontrés, ces deux clubs, c'était à Londres, oui. En phase de ligue de je ne sais plus quoi maintenant, mais ce n'était pas plus la phase de poule, ni phase de groupe, mais c'était en première partie de compétition.
Avec Benzema
Non, PSG-Arsenal.
Ah oui, PSG-Arsenal,
ils
oui.
Ils se sont déjà rencontrés, et il y a eu un 2-0 contre le Paris Saint-Germain à l'automne dernier.
Oui, il y a un ascendant psychologique. Alors, il y a un ascendant psychologique dans le face-à-face pour Arsenal, mais on est de plus en plus sur un ascendant psychologique du Paris Saint-Germain sur la Première Ligue.
Sur les clubs anglais, ouais, voilà. Oui. Exactement.
Liverpool d'abord.
Après Manchester City.
Manchester City.
Liverpool.
Aston Villa. Cette semaine.
Là, s'ils sortent Arsenal, ils peuvent être déclarés champions de France et champions d'Angleterre d'un coup, quoi. Donc oui, effectivement, ça va être hyper, hyper intéressant. Bon, ça va être très indécis entre ces deux équipes.
Est-ce que le match retour sera au Parc des Princes, oui. Ça peut changer quelque chose?
Oui, mais ce qui va changer peut-être...
Là, ce soir, ils ont pas tremblé à Madrid.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
ils ont gagné à Madrid, ouais, Nabil, en plus.
Voilà. Non, mais ce qui peut peser peut-être un peu plus lourd dans l'équilibre d'Arsenal, c'est Thomas Partey qui prend un carton jaune un peu idiot, un peu stupide, un peu sot.
Oui, de réclamation.
Plus correctement.
Il se chauffe avec Rodrigo.
C'est un coup dur.
C'est un coup dur parce que c'est quand même une pièce maîtresse au cœur du jeu d'Arsenal, ouais. Thomas Partey.
Exactement. Ouais. Bon, puis Barça-Inter, on verra. Au vu du Barça qui a été un peu bousculé hier soir. Bon, bousculé avec 4 buts d'avance, mais...
Oui. Hein, c'est un peu les extrêmes, quand même, dans la façon d'aborder le jeu, en tout cas.
Moi, je trouve que c'est un traquenard pour le Barça, mais ouais. Je me trompe peut-être. Ouais.
Bon. Eh bien, nous verrons et nous aurons le temps d'ici la fin du mois d'en reparler. On va terminer avec un match de Ligue Europa.
Oui.
Une musique hier qui a chatouillé les oreilles des joueurs d'Aston Villa et du Paris Saint-Germain. Hein, cet hymne, sur le coup, on se demandait si on entendait bien. Oui, c'était ça. Et Laurent Salerno nous le met dans l'oreille parce qu'il y a un Manchester United Olympique Lyonnais. Encore une équipe donc hexagonale en terre anglaise demain soir. Mais cette fois donc, l'Olympique Lyonnais, qui a été tenu en échec 2-2 sur sa pelouse il y a une semaine, tentera de se qualifier aux dépens de Manchester United. Jamais les Gaunes n'ont réussi à battre Manchester United en 5 rencontres passées. Le pourront-ils? Alors eux, en championnat, ils ont gagné Manchester United, alors que... Non, c'est... pardon. Ils ont perdu largement face à Newcastle 4-1. Ils sont 14e, Lyon plutôt a gagné. Ce qui était intéressant, c'était que dans ce match, la foudre était tombée sur le gardien camerounais, André Onana. Ruben Amorim, ce soir, a expliqué qu'il jouerait et qu'il serait donc demain dans les cages.
Comme entraîneur et aussi comme ex-joueur, j'ai toujours essayé de faire des choses qui peuvent aider un joueur dans de telles situations. Alors, des fois, nous parlons de gérer physiquement les joueurs. Il faut aussi les gérer mentalement. Mais eux, ils doivent rentrer à la compétition. Il est prêt. Il a eu une fin de semaine hors du jeu. Et je croyais à ce moment-là que ça valait mieux qu'il ne joue pas maintenant. Mais cette semaine, mon idée, c'est que Onana, il va bien jouer.
C'est évidemment pas simple, mais vous qui avez rédigé un ouvrage sur les gardiens de but, moi aussi j'y pense souvent, alors ou vous ou Franck Simon, David Lortolari, ce choix de Ruben Amorim, quand on voit que le naufrage malheureusement de son remplaçant un peu mis là durant un match de Première Ligue, c'est sa place, André Onana, dans les buts de Manchester United.
Complètement. Et même si c'était un gardien un peu moins fort, on a un exemple très récent et très très intéressant en Allemagne avec à Fribourg le jeune Atubolu, qui est appelé à peut-être être en équipe nationale d'Allemagne dans le futur. Son entraîneur la saison dernière, Christian Streich, il y avait des erreurs, des imprécisions, des boulettes, des bêtises. Il disait... Je fais confiance à mon gardien, je sais ce qu'il vaut, il va s'installer, il va progresser, il va... sur le long terme, ça sera une réussite. Cette saison, c'est une super réussite. Alors, on voit plus loin, évidemment, parce que quand on est dans des clubs très exposés, si vous faites 2 mauvais matchs de suite, vous êtes tout de suite remis en question, animé. Mais pour moi, de ce que je ressens par rapport à la psychologie des gardiens, par rapport au besoin d'avoir de la confiance, d'avoir de la sérénité, c'est le meilleur choix possible que de l'aligner.
Surtout, André Onana, il avait quand même fait ses preuves du côté de l'Ajax Amsterdam. à l'Inter Milan.
Le meilleur gardien de la compétition.
Il était finaliste. Ouais. Et alors là, il arrive aussi à Manchester United dans un moment un peu fou que vit ce club.
Il ne pouvait pas refuser une proposition pareille, Annie, parce que c'est quand même Manchester United, comme vous avez raison, c'est une marque.
Et puis c'était Eric Ten Hag qui le faisait venir.
Voilà, c'était Eric Ten Hag qui le
fait venir. L'Ajax.
Alors après, il peut avoir parfois sa part de responsabilité, mais quand on voit les résultats du club, évidemment, il ne se retrouve plus à être le gardien d'une équipe qui joue le titre. C'est-à-dire qu'il se retrouve à être le gardien d'une équipe
la défense
qui joue le ventre mou, quoi, tout simplement.
Peut l'abandonner parfois.
Voilà.
Les chances des Lyonnais demain soir, Nabil.
Écoutez, si ça avait été Manchester d'Alex Ferguson, je vous aurais dit zéro. Même si zéro, ça n'existe pas dans le foot. Mais là, face à un Manchester United qui est 13e de Première Ligue, qui est une équipe qui ne repose plus que sur quelques individualités, avec un coach qui arrive en cours de saison, qui est en train plutôt de faire un audit sur la saison prochaine. Lyon a rendez-vous avec l'histoire, et certains joueurs de Lyon ont rendez-vous avec l'histoire. Si vous voulez marquer les esprits, si vous voulez être considéré...
Lacazette, Mikotadze...
Voilà, Cherki notamment, si vous voulez être considéré par Didier Deschamps pour être appelé en équipe de France, c'est sur ce genre de match que tu marques des points. Donc, moi, j'avais des regrets après le match aller, parce qu'ils sont revenus à deux partout, tout le monde était content, youpi, mais en fait, je pense qu'ils étaient prenables, Manchester United, sur cette première manche. Donc, je pense que c'est du 55-45 pour Manchester qui joue à domicile, mais Lyon a les moyens d'aller chercher la qualif là-bas, enfin, en tout cas face à ce Manchester-là.
David Lortolari.
On disait, Annie, avec Chérif Guémour la semaine dernière, c'est le moment, il faut prendre Manchester, il faut s'affirmer, Lyon doit pouvoir passer cet obstacle-là. Évidemment, 2-2 chez soi avec le match retour en Angleterre. On se dit, évidemment, par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre sur les matchs aller-retour, on se dit peut-être que le coach a été manqué, mais Nabil rappelait que c'est une égalisation aussi en fin de match en faveur de Lyon qui donne peut-être un petit effet de cliquet.
1-2 et 2-2, c'est pas pareil.
Oui, c'est ça. Ça donne quand même un petit effet de cliquet psychologique pour les Lyonnais. Après, attention, je veux dire, c'est très bien si vous battez Manchester United, vous allez loin dans la compétition. Il reste quelques belles équipes aussi par ailleurs.
Je pense que s'ils sortent Manchester United, ils peuvent aller au bout.
Ils peuvent.
Tout simplement. Moment. Mais vous avez raison, parce que je parlais de Cherki, mais il y a aussi Mikotadze qui est arrivé à l'intersaison. On voit que Lacazette, maintenant un peu en retrait, lui laisse même les pénaltys. C'est à ces garçons-là de prendre le pouvoir. C'est à Malik Fofana, c'est à Ryan Cherki. Après, il y a une colonne vertébrale avec des joueurs importants. Tolisso qui est revenu à un niveau très appréciable. Le gardien dont on avait parlé, le gardien brésilien Perry, qui en fait se révèle être quand même un super coup du côté Lyon, parce que c'est vrai qu'on avait critiqué quand il est arrivé.
Et il y a de l'expérience
quand vous remplacez une légende, parce qu'Anthony Lopez c'est un garçon marquant, forcément il y a toujours un peu un côté émotionnel, on ne comprend pas pourquoi on change. C'est comme Mandanda quand il était à Marseille. Ils ont les éléments pour contester cette équipe de Manchester, et encore une fois c'est plus faible qu'Aston Villa, c'est plus faible que Arsenal, c'est plus faible que beaucoup d'équipes aujourd'hui en Première Ligue.
Ça sera leur chance de toute façon pour essayer de renouer avec la Ligue des Champions.
Et puis financièrement,
de Lyon. Oui, bon, il y a beaucoup de choses en jeu pour Lyon. Quant à Manchester United, alors là, c'est le seul moyen de retrouver une équipe européenne, parce que vu où ils sont, 14e place, ça sera très compliqué. Pour terminer cette émission, on reviendra sur cette nouvelle avec laquelle on avait ouvert l'émission aujourd'hui. C'est ce football gabonais qui est en deuil. Cette triste et terrible nouvelle venu de Chine ce matin, le tragique décès de l'international gabonais Aaron Boupenza, la panthère de 28 ans qui comptait 35 sélections pour 8 buts, jouait depuis quelques mois en Super League chinoise au club de Zhejiang Greentown. FC, c'était au sud, dans la banlieue de Shanghai, enfin dans la lointaine province de Shanghai. Il est tombé du 11e étage de son immeuble. Alors, une enquête est en cours en Chine, mais déjà, il y a eu de nombreuses réactions. La fédération gabonaise, la FEGAFOOT, veut se souvenir d'un très grand attaquant qui a marqué les esprits lors de la CAN au Cameroun, alors que le président gabonais récemment élu, Brice Olenghi Nguema, a réagi, lui, sur les réseaux sociaux. C'est avec une immense tristesse que j'apprends la disparition tragique d'Aaron Boupenza, avant-centre de talent qui a fait honneur au football gabonais. Et vous l'avez peut-être entendu, Patrice Neveu, son ancien sélectionneur, qui avait contacté Eric Mamrut, a réagi avec beaucoup de tristesse à cette nouvelle. Et nous sommes très tristes, nous aussi, à Radio Foot, parce qu'on l'avait notamment approché lors de cette CAN au Cameroun. Les amis, merci beaucoup pour cette soirée consacrée à la Ligue des Champions sur l'antenne de RFI. Vous renouez avec l'information d'ici quelques instants. Et nous, on se dit à demain. Bonne soirée à tous, bonne nuit.